Le journal Babel Pongo.
Au lancement de la clôture officielle de la conférence sur la paix, sur la sécurité et le développement des Kivu, les délégués doivent en principe voter aujourd'hui des résolutions sur les questions foncières, humanitaires et de développement relatives au retour des réfugiés et déplacés. Hier à la clôture, le chef de l'État a exprimé sa satisfaction après la signature. Dans ce journal, vous suivrez un extrait de sa déclaration, le point des travaux de ce jour et aussi les réactions des habitants de Bukavu et de la communauté internationale sur cette signature. Fin hier de la visite de l'envoyé spécial du Premier ministre britannique à Mbandaka dans l'Équateur. Dans ce journal, il revient sur les conditions que la RDC doit remplir pour bénéficier des 120 millions de dollars promis par son gouvernement dans l'exploitation forestière. Dans la seconde partie de ce journal, vous suivrez un reportage sur la spoliation de la ferme de Mpoi, un patrimoine de l'État au Kasaï oriental. Une mission de l'Assemblée nationale enquête sur la question. Bonjour à tous. L'ensemble des partenaires de la RDC ainsi que toute la population n'ont qu'une seule préoccupation, le rétablissement rapide de la paix dans les deux Kivus. Des propos du président de la République à la clôture de la conférence sur la paix et la sécurité et le développement dans les Kivus hier au mercredi. Pour Joseph Kabila, les recommandations formulées par les conférenciers constituent un signe d'espoir. Par ailleurs, a-t-il ajouté, la mise en œuvre de ces recommandations reste encore un défi à relever. Suivez cet extrait du message du chef de l'État recueilli par René Capita.
L'abondance des recommandations qui viennent d'être rendues publiques et les engagements souscrits par les uns et les autres sont de réconfortants signes d'espoir. Des grâces, n'en faisons pas de simples vœux pieux. Nous avons certes gagné une grande bataille, car il y a peu encore beaucoup parié sur l'impossibilité d'un accord entre Kivusiens. Nous n'en sommes pas pour autant au bout de nos peines. Un nouveau défi se dresse devant nous, un défi plus important et plus difficile que celui d'hier, le défi de la mise en œuvre. La construction de la paix est un processus généralement long et souvent semé d'embûches. Mais elle est aussi une œuvre exaltante, car au bout de prouvants efforts, se trouve d'incommensurables dividendes. Sécurité, investissement, emploi, revenus, scolarisation des enfants, santé des mères, bien-être de tous. Bref, le développement.
Les travaux de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement des Kivus se poursuivent à Goma, malgré la clôture officielle hier. Les délégués doivent en principe voter aujourd'hui des résolutions sur les questions foncières, humanitaires et de développement relatives au retour des réfugiés et des déplacés. Claude Kianza, vous êtes à Goma. Où en sont les travaux?
Un jour après la clôture officielle de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les deux Kivus, les travaux se poursuivent encore, car la majorité des délégués sont encore présents à Goma. Mais ces travaux devront s'achever en principe ce jeudi, selon la cellule de communication de cette conférence. Et ce n'est qu'à partir de ce vendredi que les délégués à cette conférence commenceront à quitter la ville de Goma. Plusieurs résolutions doivent encore être adoptées, parmi lesquelles des résolutions sur les problèmes fonciers, conséquences des déplacements de populations pendant les affrontements au nord et au sud Kivu. Il y a aussi des résolutions sur les questions humanitaires, de développement, ainsi que sur le retour des réfugiés et des déplacés. Autre question non encore traitée par la plénière, c'est l'audition et l'adoption des rapports de deux grands ateliers du nord et sud Kivu qui devraient intervenir ce jeudi à Goma. Par ailleurs, l'après-conférence se concrétisera notamment par la mise en place de mécanismes de suivi, de recommandations faites au gouvernement congolais, ainsi que des différentes résolutions adoptées. Pour rappel, une seule résolution a jusque-là été adoptée par la plénière de cette conférence. Il s'agit de celle relative à la paix et à la fin de la guerre qui a été adoptée ce mercredi à l'unanimité par le délégué Goma, Claude Kianza, Radio Okapi.
Merci Claude. Au sud Kivu, les avis restent partagés après la tenue de cette conférence. Pour certains habitants de Bukavu, c'est la grande satisfaction avec la signature de toutes les parties. Pour d'autres, les objectifs attendus ne sont pas totalement atteints. Selon eux, certains problèmes nécessitent encore des éclaircissements de la part des conférenciers. Il s'agit notamment de la question des réfugiés congolais qui sont encore à l'étranger. Suivez ces habitants de Bukavu au micro de Delphine Amuto.
Avant il était mitigé, maintenant il est positif, hein, du moment que les partis se sont décidés de s'engager, de signer quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont quand même déterminés pour que les histoires puissent bien marcher, quoi.
Ce que nous souhaiterions, c'est que effectivement ce qui a été signé soit aussi traduit dans les actes, parce que la population craigne et a beaucoup d'inquiétudes, notamment au sujet de l'amnistie vis-à-vis des rebelles. Heureusement, les conférenciers de Goma n'ont pas retenu l'amnistie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
De Goma a permis un peu de redonner un certain espoir dans la mesure où les Kivusiens en particulier vivaient déjà dans une espèce d'angoisse. On ne savait plus qu'est-ce que les Maïmaï allaient faire de leur terroir, etc.
Cette conférence n'aura pas vraiment une issue favorable. Les participants à cette conférence sont allés tout simplement pour avaliser les desiderata de Kundit.
Le problème des retours des réfugiés qui n'est pas l'infiltration. Parce que le plus souvent, les Rwandais veulent toujours chercher à s'infiltrer à travers les Tutsis congolais qui sont partis pour fuir la guerre ici au Congo.
La communauté internationale salue aussi la signature hier à Goma de l'acte d'engagement pour une cessation immédiate des hostilités dans le Kivu. C'est en effet pour la première fois depuis la fin de la dernière guerre que les groupes armés dans cette région s'engagent collectivement et publiquement à un cessez-le-feu et à un désengagement progressif sur le terrain. René Capita, vous êtes avec nous dans ces studios. Comment la communauté internationale réagit à cette signature?
L'ONU, par la voix de son secrétaire général, voit dans cet engagement une étape importante vers la restauration d'une paix et d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Depuis Genève, où il se trouvait ce mercredi, Ban Ki-moon a demandé au parti d'agir rapidement pour mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre de cet engagement. Il a par ailleurs invité la communauté internationale à soutenir la pleine exécution de ces engagements. Réaffirmant le soutien des États-Unis aux efforts du gouvernement de la RDC à rétablir la paix, le porte-parole de la Maison-Blanche a souligné que cet acte permettra de s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit dans l'Est de la RDC. Consciente qu'une étape importante commence maintenant, la communauté internationale appelle à une mise en œuvre efficace, rapide et de bonne foi de ces engagements qui ont été pris. Des propos du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs africains à la clôture des travaux. Roland Van Geer a réitéré l'engagement de la communauté internationale à apporter aux autorités congolaises tout l'appui nécessaire pour mettre un terme aux souffrances des populations de Kivu et permettre le retour des Congolais réfugiés dans les pays voisins.
Merci René Capita. L'envoyé spécial du Premier ministre britannique a clôturé hier sa mission en Mbandaka dans l'Équateur. La mission de Barry Gardner, qui accompagnait le ministre congolais de l'Environnement José Ndundo et l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, consistait à identifier les besoins des populations autochtones et les actions prioritaires à mener avant que le gouvernement britannique n'octroie un don d'environ 120 millions de dollars américains dans le secteur de l'exploitation forestière. Barry Gardner a rencontré hier à Bikoro les Pygmées, premier occupant de la forêt équatoriale. L'octroi de ce don au gouvernement congolais, a-t-il indiqué, est lié au respect de certaines conditions que pose le gouvernement britannique. Il donne quelques-unes de ces conditions au micro de Ghislaine Nentobo.
We have come here because we have learnt that nobody knows the forest better than the pygmy people.
Nous sommes venus ici parce que nous avons appris que personne ne connaît mieux la forêt que vous, les pygmées qui y habitez. Pendant que le monde entier demande qu'il faut protéger les forêts et faire surtout attention au changement climatique, nous nous sommes dit qu'il faudra également protéger ceux qui habitent la forêt, notamment vous, les peuples pygmées. Votre représentant venait d'indiquer tout à l'heure que ceux qui exploitent la forêt n'est ne tiennent pas compte des 40% des bénéfices qui devraient vous être rétrocédés. C'est très important. Avant de remettre ces fonds, nous devons veiller à ce que ces 40% soient pris en compte. En plus, les compagnies qui tirent profit de l'exploitation de la forêt doivent respecter les lois forestières édictées par l'ONU.
Le gouvernement congolais et la Banque mondiale ont décidé de mettre en place des mesures pour une gestion provisoire des finances publiques dans les entités décentralisées. Cela avant la promulgation de la loi financière et de celle sur la décentralisation. Ceci dans le but d'éviter un blocage éventuel dans le fonctionnement des institutions. L'application de ces mécanismes n'est plus qu'une question de jour. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Katanga a rendu public cette information à l'issue de l'audience accordée ce mardi à une délégation de la Banque mondiale en ce jour dans la capitale Cupréfère. À suivre dans la seconde partie de ce journal, un reportage sur la spoliation de la ferme de Poy, un patrimoine de l'État au Kasaï oriental. Mais avant cela, l'actualité en plus bref. Cannes 2008, hier, le Sénégal et la Tunisie ont fait un match nul, 2-2. Match nul également entre l'Angola et l'Afrique du Sud, au score du match, 1-1. Ces matchs comptent pour la 8e de finale de la Cannes 2008. International, au moins 12 personnes ont été tuées au Kenya dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dont 8 à coups de machette aux environs de Nakuru. C'était au cours de nouvelles violences entre communautés rivales, a indiqué la police kenyane. Au moins 780 personnes ont été tuées dans des violences post-électorales au Kenya depuis fin décembre. Autre nouvelle internationale, plus de 600 réfugiés centrafricains venant du nord-ouest de la Centrafrique sont arrivés dans le sud du Tchad depuis le début de l'année, ce qui porte à 45 000 leur nombre dans cette région, a déclaré ce jeudi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il affirme que ces personnes ont été victimes d'exactions de la part des forces armées, des rebelles et des coupeurs de route.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Nazaire Koko, vous nous amenez à Kisangani, à Matadi, au Kasaï occidental. Mais commençons à Kisangani avec le lancement hier de la campagne de vaccination contre la polio.
Au total, plus de 450 000 enfants sont concernés par cette vaccination qui durera 3 jours. Les agents de vaccination passent dans chaque ménage pour administrer oralement ce vaccin anti-polio. Selon le médecin inspecteur provincial, cette 5e phase de vaccination se justifie par la nécessité de livrer un combat sans merci contre le poliovirus sauvage encore présent dans la province. En effet, depuis 2006 jusqu'en ce jour, 13 cas de polio ont été enregistrés en province orientale à exception des Lituri.
Nous allons à Matadi, où se prépare depuis hier une table ronde sur la paix, la sécurité et le développement de la province du Bas-Congo.
La pauvreté et l'insécurité sont les éléments qui motivent la tenue de ce forum en mars prochain. Selon Valentin Vangui, président du conseil d'administration du conseil des ONG non gouvernementales, CNONG en sigle, à la base de cette situation, il y a les tracasseries policières et administratives, le non-respect de l'autorité de l'État, la crise de communication entre les leaders politiques, civils et religieux. L'autre cause est aussi le fait que les compétences locales sont marginalisées dans le secteur public.
Au Kasaï oriental, Nazaire, vous nous parlez de la spoliation d'une ferme de l'État.
Une mission de l'Assemblée nationale enquête sur la spoliation de la ferme primaire et sémencière de Mpoyi, une ferme de 1800 hectares située à 110 km de la ville de Mbujimayi. D'après le député Clément Kankouboukassa, chef de la délégation, les premières discussions ont déjà eu lieu avec les autorités provinciales de sur cette affaire. Et il y a 15 ans, cette ferme produisait des semences de maïs pour toute la République démocratique du Congo. Suivons ce reportage de Esther Ndalafina.
L'enquête sur la vente de la ferme d'Mpoyi fait suite à l'interpellation l'année dernière du ministre national de l'Agriculture à l'Assemblée nationale. Cette ferme de l'État, d'une superficie de 1800 hectares, était consacrée depuis plusieurs années à la production de semences. Selon le député Clément Kankouboukassa, chef de la délégation, la mission parlementaire enquête sur la vente d'une partie de cette ferme à un homme d'affaires de la place. L'inspection provinciale de l'Agriculture affirme pour sa part que cette partie de la ferme n'a pas été vendue, mais elle a été mise à la disposition de ce particulier pour exploitation. L'État congolais ne pouvant pas être en même temps producteur et vendeur de semences, 20 hectares ont été cédés à cet opérateur économique. Pour la prochaine saison, 80 tonnes de semences pour les agriculteurs sont attendues. Après l'étape de Ngandajika, la délégation parlementaire devra mener des enquêtes sur la vente des maisons appartenant à l'État et la spoliation des terrains de l'État dans les autres province de la RDC. Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Terminons par Kananga avec une délégation des députés provinciaux qui se penchent sur les taxes payées par l'AMIBA.
Les élus du peuple dans la province se sont rendus compte que beaucoup des taxes payées par l'AMIBA pour le Kasaï occidental ne parvenaient pas à cette province. C'était lors de leur mission à l'AMIBA à Mbujimayi. Selon le député Kawino Deler, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, le séjour de Mbujimayi leur a permis de suivre les modalités des paiements de créances de l'AMIBA pour la province. Maintenant, la même délégation va se rendre ici à Kinshasa pour finaliser le dossier. Notons que la mineure de Bakwanga exploite des carrés miniers depuis plusieurs années au Kasaï occidental.
Merci Nazer. L'info continue sur www.radiookapi.net. Merci de votre attention. Okapi.